Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Bonjour les amis.
Bien le bonjour.
Bonjour. Nous allons commencer l'émission par la lecture d'une nouvelle écrite par notre ami Gérard Viry, un auteur fidèle des Refusés. C'est après avoir écouté un témoignage recueilli et diffusé sur France Culture dans l'émission « Les pieds sur terre » que Gérard a voulu écrire ce texte intitulé « Confession ».
Sophie était revenue heureuse, le temps d'un mariage, celui d'un cousin. Elle s'était replongée dans les parfums de son enfance, ceux du sud, de la Drôme provençale, ceux de ces sortes de petits villages de cartes postales toujours ombragés, des joueurs de boules faussement acariâtres, ceux des enfants au rire saccadé, des corps assoupis sur le pas de porte, embaumés de trop plein d'huile d'olive, ceux gorgés des étincelles de l'attachement. En un week-end, elle avait retrouvé le chaloupé tranquille du vent, la protection par les persiennes et les tentures libres, la légèreté de l'ombre et la douceur de la tulle portée à peine comme un flirt sur ses cuisses chaudes. Sophie s'était naturellement souvenue des vacances au bord du torrent, des rires de la grenadine et des farientes organisées à même l'hiver. Cette communauté villageoise était celle de la nisette et de l'entraide séculaire. Ainsi, là-bas, dès la prime enfance, Sophie n'avait jamais connu les blouses uniformes de la République. Comme toutes et tous, elle avait été très vite pensionnaire de l'école chaleureuse du père Antoine. À son retour à Paris, chez nous, Sophie était donc joyeuse, encombrée de ses souvenirs pagnolesques. Elle me souriait, s'allongeait dans le franc bonheur de son enfance.
Alors, ce mariage, c'était bien ?
Elle leva la tête. Je ne vis que ses yeux, l'étincelant mystère de deux agates brunes posées sur moi.
Oh oui, vraiment bien. Une belle fête, un beau mariage. Ça m'a fait chaud de revoir la famille, les amis, le village. Mais quand même, tu m'as manqué.
Elle se pressa doucement contre mon ventre et nous fîmes l'amour pour encore mieux nous respirer. Plus tard, nue, une cigarette au bout des doigts, elle raconta la noce. Sophie avait le verbe enjoué, bien vivant.
Et au dessert, c'est marrant, les mariés ont fait le tour des tables pour distribuer des photos du père Antoine. C'était chouette. Ils avaient envie d'honorer sa mémoire. Tiens, je te montre la mienne.
Sophie se pencha gaiement hors du lit, tandis que ses seins, ronds et hâlés, flattaient le bord froissé du drap. Elle vola au sol son grand sac à main de toile jaune, celui qui ne la quittait jamais. Elle en extirpa une carte, comme un faire-part de communion. C'était la photo d'un homme, au sourire clair et au regard droit. Elle a dit.
C'est drôle. Quand j'y pense... Parce que le père Antoine, il nous donnait des images aussi.
Puis...
Le père Antoine, tu sais, il avait... une odeur particulière.
D'un coup, Sophie me reprend l'image. Elle ne la lâche plus. L'approche de son nez. La respire.
Ça sent le père Antoine.
D'un coup aussi, le présent. Le silence. Le silence blanc d'un hiver revenu sans prévenir. L'instantané d'une nuit glacée, la gerçure, un cratère, une béance dans la terre hostile. Quelque chose qui revient de loin et qui se brise. Alors finit l'amour et les rires. Les courses dans le soleil et l'insouciance. Sophie ne peut plus rien dire, puisque tout en elle est saisi, figé, gelé, rappelé. Je vois sa bouche qui reste ouverte. Elle happe le vide, tant qu'elle peut. Sophie est une carpe arrachée à la vase, un surgissement de la mémoire agenouillée dans la souillure. Elle me regarde sans plus me voir. Elle articule ce qu'elle peut, encore de mots.
Tu sais, les confessions avec le père Antoine, c'était pas drôle, hein. C'était la tête entre ses cuisses.
Après, Sophie n'a plus rien dit. Elle n'a plus parlé. Elle s'est juste dépêchée de se suicider. Après avoir frappé aux portes de l'enfer avec Robert Zimmerman, dit Bob Dylan, laissez-moi parler de vous, de Philippe Hurier. Pour commencer, sachez, chers amis et amis, que nous avons partagé les bancs de l'école. Imaginez deux petits bambins en maternelle et en primaire dans une école que tu connais très bien, Evelyne. Je tiens juste à préciser que tu n'y exerçais pas encore. Bon, cela étant dit, Philippe est comédien, metteur en scène nancéen, collectionneur de vieilles automobiles et créateur de la compagnie G2L. Aujourd'hui jeune retraité, on l'a vu jouer sur toutes les scènes de l'agglomération, mais aussi dans le Off à Avignon. Je me souviens particulièrement de l'interprétation saisissante d'un gros con raciste d'un réaliste quasi naturaliste à faire froid dans le dos. C'était, si ma mémoire est bonne, au petit théâtre dans la ville devenu depuis le LEM, grand rue à Nancy. Dans le texte que nous allons vous lire, il nous présente Jaja, un enfant presque ordinaire qui parvient à changer l'équilibre du monde, ne serait-ce qu'une seconde. Voici donc, il s'appelle Jean-Jacques Garnier de Philippe Hurier. Message perso, Philippe, on l'a fait quand cette bouffe ?
Jean-Jacques Garnier, il s'appelle Jean-Jacques Garnier. Il n'a pas encore 38 ans, il n'est pas encore clerc de notaire, mais il s'appelle déjà Jean-Jacques Garnier et il ne sait pas que nous le savons déjà. Non, pour l'heure, il est le petit Jean-Jacques Garnier et son âge nous importe peu. Nous consentirons juste à préciser qu'il n'a pas encore 10 ans, qu'il est le fils unique et que ses parents l'appellent Jaja, pour ne pas le confondre avec son papa, Jean-Jacques Garnier, 38 ans, fils unique, commis aux écritures, dans une petite agence de quartier de la Banque des Familles Nombreuses, ni avec son grand-père paternel, Jean-Jacques Garnier, mort subitement à l'âge de 38 ans dans l'exercice de ses fonctions de sous-directeur adjoint au service de l'état civil de son village natal du Puy-de-Dôme. Pour l'instant, Jaja sort de l'école. Il fait nuit et froid, c'est décembre, et il rase les murs. S'il marchait bien au milieu du trottoir, il risquerait de devoir dire « Oh, pardon !» à une personne qu'il croiserait et peut-être bousculerait. Et sa maman lui a bien dit...
« Surtout n'adresse la parole ni ne réponds à des inconnus dans la rue. Tu ne sais jamais à qui tu as affaire. On ne sait jamais. Quelqu'un qui voudrait t'enlever. Il n'accepte rien qu'on voudrait te proposer. Tu m'as bien comprise, Jaja. »
Alors Jaja rase consciencieusement le mur. Son mur, rien qu'à lui, son compagnon de route, son confident, son ami. Jaja rase son mur. S'il marchait le long du caniveau, une voiture qui ferait une embardée risquerait de le faucher. Ou pire, roulant dans une flaque d'eau ou de neige boueuse, comme la ville crasseuse sait bien le faire, éclabousser ses maigres mollets qui dépassent de son short.
Tu risquerais d'attraper la mort, Jaja. Tu ne veux pas mourir, Jaja. Tu as toute la vie pour ça, hein? Et puis, ce serait pas dans l'ordre des choses. Les parents d'abord, Jaja. En tout cas, Dieu l'a prévu comme cela.
Alors Jaja rentre de l'école en rasant son mur et en ayant bien en tête les consignes de sa maman. Et il faut bien écouter maman, hein, car elle sait ce qui est bien pour Jaja. Toutes les mamans savent d'ailleurs ce qui est bien et bon pour Jaja. Enfin, pour leur Jaja, elle, hein, les autres. Car Jaja est unique. Sa maman le lui dit souvent, très souvent, régulièrement, en lui faisant sa toilette le soir quand il ramène tous les microbes à toutes les impuretés de l'école et de la ville, ainsi que le matin avant d'aller en classe pour l'immuniser, au moins entre la maison et l'école. Oui, Jaja est unique, et il est, par là même, celui sur qui repose l'avenir de sa famille, celui qui va poursuivre l'ascension sociale fulgurante entamée par le grand-père paternel, employé des autorités communales, puis poursuivi par le père, employé d'une banque renommée du quartier et pour qui Jaja, l'héritier, ne peut qu'être promis à de hautes fonctions. Jaja rentre donc de l'école en rasant son mur, ayant bien en tête les consignes de sa maman et la conscience d'être le porteur de l'avenir de son brillant lignage. Peu lui importe les brimades de ses camarades de classe qui le raillent au sujet de son short et de ses nu-pieds en plein mois de décembre. Non. Là-haut, dans son usine à jouets, le Père Noël voit bien les mortifications que Jaja s'impose afin d'être un bon petit garçon qui fait la joie, le bonheur et fera un jour la fierté et l'honneur de son papa et de sa maman. Et là-haut, dans son usine à jouets, le Père Noël il donne les consignes à ses collaborateurs pour bien remplir la cheminée du petit Jaja qui fait la joie, le bonheur et fera un jour la fierté et l'honneur de son papa et de sa maman. Et puis, le maître a encore dit à Jaja ce matin, en rendant les compositions.
« Tu as raison, mon petit Jean-Jacques. »
Le maître, sûrement par respect, doit pas oser l'appeler Jaja.
« Continue comme ça et tu iras loin. » Tu peux me croire. Je n'ai jamais vu un devoir pareil, vraiment. C'est à peine croyable.
Si ses camarades ont éclaté de rire comme ça, ce ne peut être que par jalousie. Et Jaja en a d'ailleurs parlé à son mur, qui ne lui a pas répondu. Or, qui ne dit mot, consent. Alors, Jaja rase son mur. Soudain, il aperçoit quelque chose devant lui, par terre, sur le trottoir. Une crotte de chien. Cependant, il ne peut pas l'enjamber, car devant lui, deux dames discutent et il serait alors obligé de leur dire « Pardon, mesdames ». Et sa maman lui a bien recommandé de n'adresser la parole à personne. Alors Jaja prend une décision qui va bouleverser sa vie. Jaja fait un écart pour éviter de marcher dans cet étron intempestif et parfaitement déplacé. À peine s'est-il déporté légèrement sur sa gauche, qu'il entend un fracas qui le fait s'arrêter puis se retourner. Un pot de fleurs vient juste de s'écraser sur l'obstacle qui l'a contourné la seconde précédente. En un éclair, Jaja vient de prendre conscience de trois éléments qui ne seront pas sans conséquence sur son futur. Sa vie vient d'être sauvée par un écart de conduite.
extrêmement grave puisqu'il a désobéi à sa maman. Jaja, un ange gardien. Leur planétaire vient d'être bouleversé de manière insensée. Il savait depuis tout petit, pour l'avoir expérimenté lui-même pendant des longs mois, que les crottes s'écrasaient dans le pot. Et là, il vient de voir, de ses yeux, voir un pot s'écraser dans la crotte. Par un simple écart de 50 cm, Jean-Jacques Garnier, âgé de moins de 10 ans, a réussi à lui tout seul à inverser l'ordre naturel et immuable des choses l'espace d'une seconde. Ah oui, oui, vraiment, ses camarades peuvent bien se moquer de lui, de ses shorts et de ses nu-pieds. Ouais, à partir de maintenant, on n'a pas fini d'entendre parler de Jean-Jacques Garnier. Vous pouvez nous faire confiance.
Vous marchez, Juliette, au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard vous avait alpagué de l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine.
Sur RCN,
une émission proposée par la revue Les Refusés.
C'était Yves Simon qui chantait au Pays des Merveilles de Juliette. Le dernier texte que nous allons vous lire s'appelle Un nouveau jeu. Une nouvelle extraite du numéro 5 de la revue est écrite par Patrick Bourgeois, un auteur vosgien. La pendule, au-dessus du vieux bureau, marqué 9h du soir, et le calendrier, à l'effigie d'un policier en pleine action, annoncé le 9 juillet 1999. Nous étions en période estivale. Dans le commissariat du quartier de Melvange, l'atmosphère était à la morosité. « Un tarot, les gars !» lança le brigadier-chef Nathan.
Non, c'est tous les soirs la même chose.
Bon, alors, un 421 ?
Renchérit Lambert, le planton de service. Les trois agents de l'ordre se morfondaient dans la petite pièce. Aucun appel, rien de rien qui puisse les distraire un peu. Le décor n'avait rien de folichon. Il était autrefois le local des bains-douches de la ville. Peu d'éléments de l'ancienne structure avaient disparu. Pourtant, à une époque, les gardiens avaient du pain sur la planche. C'est dans ce haut lieu que la répression battait son plein. Il y a 15 ans, ce commissariat, avait été créé en urgence pour faire régresser la vague de crimes, de violences dans la cité dortoir de Melvange. Tous ceux qui avaient eu le malheur de tomber entre les mains de nos trois compères avaient gardé dans tous les sens du terme un souvenir profond de leur passage. Hélas, pour eux, les équipes gouvernementales de l'époque proposèrent un plan de décentralisation. Les habitants furent dispersés vers d'autres zones d'habitation, plus facilement contrôlables. Dans la cité, il ne restait guère que 50 locataires sur les 2000 de la belle époque. Nos trois agents, seuls rescapés des diverses mutations, restaient là, plantés dans leur taudis. Lucien se leva, faisant grincer sa chaise sur le carrelage dégoûtant. Les deux autres le regardaient.
J'ai un nouveau jeu.
Il attrapa le bottin, le posa sur la table en poussant les cadavres de bière qui s'y trouvaient accumulés depuis pas mal de temps. Il ferma les yeux, leva la tête vers le plafond, ouvrit l'annuaire et promena son doigt de haut en bas. Puis, il stoppa net.
Celui-là, Victor Cassé. 10 rues du Lion d'Or.
Ouais, alors, c'est lui notre nouveau jeu ?
T'inquiète pas, ça va être formidable.
Les compères, dans un premier temps, dénigrèrent l'idée de leurs collègues. Au fur et à mesure que Lucien expliquait sa règle du jeu, ils changeaient d'avis. Ils allèrent jusqu'à proposer plusieurs versions. Un quart d'heure plus tard, la voiture roulait en zigzag en direction de la rue du Lion d'Or. À l'intérieur, une chaude ambiance remplaçait la morosité de ces dernières heures. Lucien, le képi enfoncé jusqu'aux oreilles, conduisait en riant grassement. Nathan rota à l'arrière en digérant ses 14 canettes de l'après-midi. Quant à Lambert, il pleurait dans son mouchoir à l'idée géniale de ce nouveau jeu. Le véhicule stoppa à un carrefour.
Si ma mémoire est bonne, la rue que nous cherchons, elle est là, tout de suite, à droite.
Ils repartirent au pas jusqu'au coin de la rue.
Oui, ben c'est bien là. Il ne reste plus qu'à trouver les numéros qui nous intéressent.
Là !
Le 10 de la rue du Lion d'Or était un charmant pavillon de banlieue, laissant apparaître les talents de jardinier du propriétaire. Derrière la grille rouge, des massifs de fleurs multicolores ornaient l'allée centrale. Les trois hommes descendirent de la voiture sans faire de bruit. Nathan laissa échapper un dernier « burp » en refermant la portière. Le bruit incongru eut un effet instantané sur ses deux camarades qui, la main sur la bouche, pouffaient comme des idiots.
Oh, un peu de sérieux les gars, hein, c'est le premier candidat, il ne faut pas le rater.
Victor Cassé, la cinquantaine, administrateur des pompes funèbres, regardait tranquillement le film à la télévision quand la sonnette retentit. Il posa délicatement son verre sur le rebord de la table, se leva en s'essuyant la bouche et se dirigea vers la fenêtre. Il souleva l'épais rideau de coton pour apercevoir le visiteur nocturne. Dehors, il n'y avait personne. Il abaissa le rideau quand de violents coups contre la porte le firent sursauter.
Police ! Ouais, au nom de la loi !
L'homme pâlit, aussi surpris que l'enfant qui vient de naître. À peine avait-il tourné la clé dans la serrure que la porte s'ouvrit violemment, laissant apparaître deux policiers, le torse gonflé, formant un mur infranchissable. Le troisième était caché derrière les deux autres, s'étouffant pour ne pas éclater de rire.
Cassé, cassé, t'es foutu.
En lâchant ces mots, les deux hommes empoignèrent le pauvre type qui ne comprenait absolument rien à la situation. En quelques secondes, il se retrouva à terre, les menottes au poignet.
Et ton compte est bon, cassé. À ta place, j'avouerai tout de suite.
Mais avouer quoi?
Tu fais déjà l'innocent.
Le brigadier-chef Nathan entra à son tour dans le jeu et referma la porte pour ne pas attirer la curiosité des passants. Il décocha un violent coup de pied dans le ventre du pauvre Victor. Oh. Et avec ça, tu retrouves la mémoire? Lucien retint le second coup de pied.
Ne le déglingue pas, hein, on pourrait plus jouer.
Ils attrapèrent l'homme sous les bras et le collèrent sur une chaise.
Tu sais, cassé, nous savons tout au sujet du meurtre de ta femme.
Ma femme, mais je suis pas marié.
Nous savons ça, mais faut faire semblant. Comprends-tu?
Non, je comprends pas.
Bah tant pis.
Aïe!
Il lui donna une claque retentissante. Victor commença à saigner du nez.
Mais qu'est-ce que... Je comprends rien à vos salades, là. J'ai rien fait, moi.
Mais t'as rien compris du tout. Tout ça, c'est un jeu. Tu entends? Un jeu.
Oui, un jeu. Et les coups aussi, alors?
Bah, bien sûr. Tout ça, c'est une mise en scène pour faire plus vrai. Tiens, c'est comme ton procès. Ce qu'il faut, c'est jouer le jeu. Parce que c'est... un jeu.
Ouais, un procès. Mais quel procès, vous? Vous êtes complètement dingue, non?
Pas de grossier avec nous, mon pote.
Lucien se fit plus doux, plus complice encore.
Ton procès. Tu sais bien, Victor. Tu permets que je t'appelle Victor?
L'homme, reniflant son sang, laissa échapper un petit...
Oui.
Voilà qui est bien plus raisonnable, Victor. Eh bien... puisqu'il n'y a plus de problème, commençons ton procès.
Nathan se leva très digne. Au nom de la loi, je déclare coupable de meurtre le sieur Victor Cassé, ici présent. Dans une nuit qui reste à déterminer, il a étranglé, poignardé, brûlé et mordu sa femme. Une pauvre vieille impotente et moche. Gertrude Cassé. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Un grand silence soulagea l'assemblée.
Bien. Que plaide le coupable?
Lucien tapa sur l'épaule du pauvre type qui n'espérait qu'une chose, que le cauchemar se termine.
Coupable! Vas-y, dis-le.
Coupable.
Quoi? J'ai pas bien entendu.
J'ai dit coupable.
Plus fort.
Putain, mais je vous dis, j'ai dit coupable.
Bien. L'accusé plaidant coupable pour le meurtre de sa femme, qu'il n'a pas par ailleurs, sera condamné.
Nathan regarda les autres pour y puiser l'inspiration. Condamné à mort! Sur le visage des deux autres, une certaine joie s'inscrivit. Victor releva la tête. Il était dégoulinant de sueur et en proie à une frayeur totale.
Oh, la mort, c'est aussi pour jouer, hein? Hein? Dites-moi, c'est aussi pour jouer?
Lucien décrocha la ficelle du store, fit un nœud coulant, qu'il enfila au crochet du lustre de la salle à manger. Victor suppliait qu'on lui réponde.
Ben, c'est un jeu. C'est tout.
Arrêtez, vous êtes complètement tarés, les mecs. Détachez-moi. Je veux plus jouer, moi.
Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Que vas-tu faire? Appeler la police?
Lambert et Lucien attrapèrent de nouveau l'homme en dessous des bras en le serrant très fort. Victor gesticulait en espérant s'évader de la tenaille musculaire qui le coinçait. Nathan posa délicatement une chaise sur la grande table de chêne. Il passa la cordelette autour du cou du malheureux. Les deux autres l'empoignèrent et l'installèrent sur la chaise.
Mais calme-toi, Victor. Si tu bouges comme ça, tu vas bêtement glisser.
Nathan reprit la parole. Vois-tu, Victor, c'est fini. La partie est terminée. Nous allons gentiment rentrer à la maison.
Oui. Alors, le jeu est terminé. Vous êtes sûr?
Puisque je te le dis, tu n'as plus rien à craindre.
Bon, alors pourquoi vous me libérez pas?
Patience. Lucien est en train de compter jusqu'à 100. Quand il aura terminé, tu seras considéré comme mort et la sentence accomplie.
Oui. Oui, ben, vous me rassurez. Pendant un instant, j'ai cru que vous vouliez me faire la peau.
Tu vois, c'était pas si difficile de nous faire plaisir.
Oui, oui.
98, 99, 100!
S'exclama Lucien.
En tout cas, tu as perdu, Nathan. Tu me dois 100 balles. Il a pas pissé dans son froc.
Eh ouais, c'est la règle du jeu.
Il paracheva sa phrase d'un regard de compassion pour le pauvre homme. Et il mit un coup de pied dans la chaise. Oh. Voilà, justice est faite.
Oh, Lucien, est-ce que tu peux être mauvais joueur?
Les trois hommes regardèrent le pendu. Ils s'assirent de nouveau, accoudés sur la table, la tête dans les mains. Ils se regardèrent en soupirant. Un léger sourire passa sur leurs lèvres pour enfin éclater de rire.
On s'est quand même bien marré, hein.
Lambert attrapa le bottin qui traînait près du téléphone.
Bon, à mon tour maintenant.
D'entendre le festin de la Goulue, extrait du CD Musique pour contes étranges de Pierre Zimmer. Pierre Zimmer est accordéoniste à la base, mais il a étendu ses compétences en jouant de l'accordina, un instrument de musique qui est une sorte de compromis entre l'accordéon et l'harmonica. Il l'utilise d'ailleurs avec brio en concert et parfois à mes côtés, ainsi que dans des spectacles, aux côtés de Guillaume Louis, le tenancier du Chardon débonnaire et de la Musette. Là, c'est une compagnie de théâtre, mais aussi une librairie alternative nancéenne qui privilégie les contacts directs entre les auteurs et les lecteurs, ou bien entre les auditeurs et les musiciens, en amenant directement les livres ou les CD qu'ils distribuent. Bref, c'est vraiment une adresse à connaître. Alors, au revoir à tous, à toutes, et à bientôt.
Hop, 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 hop.